France Culture.
Supposedly, Cousteau and his cronies invented the idea of putting walkie-talkies into the helmet. But we made ours with a special rabbit ear on the top so we could pipe in some music.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir.
What do you want?
Look.
Dear God.
I'm terribly sorry, sir.
We must go to her.
Wait a second. Before we attack each other and tear ourselves to shreds like a pack of maniacs, let's just open the sack first and see what's actually in it. It might not even be worth the trouble.
I don't know. What do you
think? I'm not sure.
Maybe.
Hi.
Peut-être dû laisser les micros ouverts et voir si vous étiez capable de reconnaître à l'aveugle tous les extraits de films qu'on vient d'entendre. C'est la première exposition consacrée à l'œuvre du cinéaste Wes Anderson. On y suit l'évolution de son travail depuis ses débuts dans les années 90 jusqu'à son film le plus récent, Récompensé. C'est un trio de commissaires qui est en charge de présenter à la fois l'univers esthétique du réalisateur, mais aussi ses influences et sa méthode de travail. Raphaël, un premier avis synthétique, avez-vous pensé de cette exposition Wes Anderson?
On dit souvent de Wes Anderson qu'il est un cinéaste décorateur. C'est vrai qu'il aime créer des mondes, des univers un peu autonomes en marge du monde. C'est vrai que ces films, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre du Grand Budapest Hotel, fonctionnent un peu comme des visites guidées de ces univers. Donc c'est vrai que c'était le candidat idéal pour une exposition rétrospective, patrimoniale, comme en fait la Cinémathèque. Et puis il est aussi l'archiviste de son propre travail. Il conserve avec une grande cohérence des tas de documents. Donc l'exposition est très riche en objets, en costumes, en maquettes. Elle est assez élégante. Il y a un côté un peu fétichiste, comme les cinéastes de tout rassembler. Mais elle est un peu sage aussi, comme les films de Wes Anderson, somme toute.
Antoine, en quelques mots, votre premier regard.
En quelques mots, c'est une très belle exposition, très réjouissante à visiter. Mais c'est une exposition, effectivement, sans doute plus de design que d'autre chose. C'est pas innocent qu'elle soit coproduite par le musée du design de Londres. Je me suis interrogé pendant toute la visite, où est le cinéma?
Où est le cinéma? C'est une bonne question. On va tenter d'y répondre. Raphaël, peut-être pour commencer, comment est construite cette exposition? Quel cheminement, finalement, le spectateur doit-il prendre pour s'immerger dans l'œuvre de Wes Anderson? Et est-ce qu'on s'immerge vraiment? Est-ce que c'est le bon terme?
En tout cas, c'est l'une des idées de l'exposition de jouer sur un effet de mimétisme qui serait que cet espace de ce grand couloir de l'exposition serait reproduirait un peu le monde de Wes Anderson. Il y a un effet de scénographie qui fonctionne comme ça, qui est qu'on a une grande allée centrale qui distribue des petites pièces qui sont comme les plans de Wes Anderson, comme les décors qu'il met en scène, comme des petites vignettes où on va regarder à partir de cette allée centrale. Et on retrouve l'élégance de Wes Anderson. On a des grands murs rouges avec une unité esthétique qui est assez forte.
Mais pour le moins, est-ce que c'est immersif? On a beaucoup vu ces derniers temps des expositions immersives, c'est-à-dire le spectateur est vraiment plongé dans un décor. Est-ce que là, on est plongé dans un décor de film? C'est ça l'idée de l'expo?
C'est ça l'idée de l'expo, mais avec les moyens de la Cinémathèque française qui sont pas complètement immersifs non plus. On a une animation en VR qui permet de plonger dans l'un des décors de l'île aux chiens de Wes Anderson. Ça dure 5 minutes, c'est assez ludique, c'est rigolo. On est soi-même dans le décor de bambou ou dans le décor du funiculaire. Donc on s'immerge un peu, mais c'est quand même très très furtif. Et puis on voit aussi dans cette animation, dans cette installation, le travail des animateurs en time-lapse. Donc ça permet de voir comment ils animent, parce que Wes Anderson fait aussi du cinéma d'animation. Donc il y a cette intention de nous immerger, mais qui fonctionne quand même pas tout à fait.
Alors Antoine, quel type d'artefact on retrouve dans cette exposition et que disent-ils du cinéma de Wes Anderson, puisque vous parliez de design?
Alors c'est deux questions, artefact d'abord, le cinéma de Wes Anderson effectivement est une accumulation d'artefacts dont certains, qui sont tous fabriqués expressément pour les films. Alors c'est un des plaisirs de l'exposition, c'est-à-dire de voir des objets qui apparaissent très furtivement dans les films. Quand un personnage lit un livre chez Wes Anderson, c'est un livre fictif qui est fabriqué pour l'occasion et qui parfois n'apparaît que deux secondes. Et là on peut le voir, le regarder. Les artefacts les plus spectaculaires sont évidemment les marionnettes utilisées pour ces deux films d'animation, pour Lilo Chien et Fantastique Mr. Fox. Donc elles sont très belles, on les voit, on est très heureux de les voir, mais on les voit statiques. Voilà. Et en fait, tous ces objets sont un peu morts parce qu'ils sont derrière des vitrines, parce qu'ils sont exposés. C'est le cas pour toute exposition. Et c'est un peu le degré ultime du cinéma de Wes Anderson qui anime des marionnettes, qu'elles soient des marionnettes physiques ou des humains, qui jouent tous un peu comme des marionnettes. Et tout ce qui fait que le cinéma de Wes Anderson est au-delà de ça, au-delà de cette accumulation d'objets, est quelque chose en mouvement, est quelque chose qui vit peut-être de moins en moins, mais qui malgré tout vit, même si ça ne parle que de mort, et sans doute que le cinéma de Wes Anderson, sa grande obsession, c'est la mort et la fixité ultime, même si on doit la regarder avec élégance et qu'il faut continuer à vivre malgré tout, bien, atteint ce stade terminal dans cette exposition. C'est pas tant que ça une exposition typique de la cinémathèque française, parce qu'il y a deux types d'expositions à la Cinémathèque française et d'expositions du cinéma en général. Il y a effectivement celle qui va nous montrer toute cette matière qui sert à faire un film, donc ça peut être les costumes, il y a notamment les costumes de quasiment tous ces films, et on admire le travail de ces costumières, notamment de la grande costumière Milena Canonero, qui est celle qui a commencé avec Kubrick, notamment, c'est celle que fait Barry Lyndon, Orange Mécanique et autres, donc c'est vrai, ce sont des très beaux costumes, et on est ravis de les revoir. Mais il y a aussi, et c'était certainement le grand apport de la Cinémathèque française depuis que Dominique Paigny y était et qu'il a continué après à travailler cette matière-là dans d'autres expositions. On pense à l'exposition extraordinaire qu'il avait faite sur Hitchcock à Montréal, puis au musée d'Orsay, c'est comment exposer le cinéma. Au-delà de tout le fétichisme de l'objet, de ce qu'on est ravi de retrouver, ou de voir les carnets qui ont servi à préparer un film, tel ou tel storyboard, c'est-à-dire, d'accord, mais quelle pensée on peut avoir sur le cinéma?
Et là, comment
montrer le cinéma? Et peut-être parce que Wes Anderson est vivant, tant mieux pour lui, mais dommage pour l'exposition, Wes Anderson est toujours là derrière, donc il va un peu contrôler ce qui se fait, et je ne sens pas de réflexion, de discours sur le cinéma de Wes Anderson. L'exposition est très sage dans son contenu, elle est complètement biographique, c'est-à-dire qu'on a vraiment du premier film au dernier film. Alors les films vont se coupler deux par deux parce que Wes Anderson a un peu des périodes aussi, mais c'est un peu la seule réflexion qu'il peut y avoir, de mettre un film à côté de l'autre et de voir ce que ça va faire. Mais par exemple, les extraits des films. Les extraits des films ont été choisis par Wes Anderson et ne disent à peu près rien. Une des grandes force de la Cinémathèque, ça a été souvent de prendre cette matière cinématographique, de la monter et de l'exposer, parfois sur ces écrans un peu translucides qui pendent et qui fait que le cinéma surgit et a une vraie présence dans l'exposition. Et tout d'un coup, on a un regard, on a une réflexion sur qu'est-ce qui fait cinéma, quels sont les grands thèmes, quels sont les mouvements d'appareil, pourquoi est-ce qu'on filme telle chose, une chose d'une façon et pas d'une autre. Et ça, on ne l'a nulle part dedans. Il aurait été très riche, par exemple, de mettre d'autres choses que du Wes Anderson dans cette exposition. De mettre tel tableau, alors, de temps en temps, on a les photos de l'Artigue, on a les photos de Doineau qui sont là. Mais comme elles sont jamais mises en regard directement avec ce que ça peut provoquer chez Anderson, il y a en fait très peu de pensées dans cette exposition.
Raphaël, Antoine dit biographique, mais est-ce que c'est aussi une expo hagiographique? Est-ce que c'est vraiment une expo pour les fans uniquement, ou est-ce que tout le monde peut avoir quelque chose à regarder dans cette expo-là?
Oui, je pense qu'il y a un petit effet de mimétisme, et effectivement, l'exposition, elle fonctionne comme un apéritif. On grappille des extraits et puis ça peut donner envie de revoir les films. Il y a quelque chose comme ça qui peut rester effectivement assez superficiel dans la façon d'aborder l'exposition, c'est sûr.
Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Antoine sur le manque de discours?
Oui, et moi, il y a un moment qui me frappe dans l'exposition, c'est qu'il y a plusieurs extraits qui montrent des personnages qui ont des larmes énormes qui leur coulent des yeux. Et alors ça m'a quand même frappée. Je me suis dit, c'est vrai que dans les films de Wes Anderson, les personnages éprouvent des émotions excessivement fortes, alors que son cinéma est un cinéma qui ne joue pas du tout sur les émotions du spectateur. Et alors, en percevant que le renard, par exemple, de Fantastic Mr. Fox, est sans cesse pris par un chagrin très fort, où il y a des personnages qui ont des colères immenses, et que nous, on reste très neutre, en fait, dans ce qu'on ressent, ça, j'aurais aimé que ce soit plus exploité, par exemple, que cette idée-là, qu'on peut grappiller comme ça, si vraiment on se concentre très fort pour essayer de trouver des échos entre les extraits. Finalement, c'est pas pris en charge par l'exposition. Et au-delà du fait qu'on a la très belle maquette de Grand Budapest Hotel, pour laquelle Wes Anderson a fait appel à Simon Weiss, qui est l'un des seuls au monde à travailler de façon artisanale sur des maquettes. Donc il y a comme ça, effectivement, quelque chose d'agiographique sur le fait de montrer la fidélité aux collaborateurs, le travail vraiment très minutieux d'artisans. C'est beau de l'avoir dans le couloir, mais on n'apprend pas grand-chose dessus. Donc il y a quelque chose qui hésite un peu entre le fait d'être du côté de la fabrication, comme j'en parlais pour cette animation en VR, ou le côté d'être dans l'immersion, mais où les moyens sont pas tout à fait là pour le faire. Et effectivement, c'est pas du tout une exposition d'analyse.
Mais ce rapport aux objets, aux maquettes, par exemple, j'imagine qu'il y a des jeux d'échelle du coup qui jouent. On aperçoit cette maquette-là ou une autre. C'est aussi ça le cinéma. Il y a quand même aussi une grande partie d'artisanat. C'est ce qui est montré dans cette exposition-là. Est-ce que ça donne pas quand même une partie de la réponse à la question que vous posiez, Antoine ? C'est-à-dire comment on expose le cinéma ? On peut l'exposer aussi par son côté artisanal.
Oui, mais sauf que ça fait pas de cinéma. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on prend, effectivement, on admire toute la qualité, le pointillisme, le sens du détail qu'il y a dans tous ces objets fabriqués, sauf que ce ne sont jamais que des objets fabriqués pour faire un film. Mais j'avais le même sentiment, par exemple, quand il y avait eu l'exposition Kubrick, c'était pareil, c'était très sage, c'était film par film, et puis on nous montrait tous les artefacts, les costumes, etc. Mais par exemple, cette grande question du décor en coupe qui est passionnante chez Wes Anderson, mais il faut l'interroger à d'où ça vient. Pourquoi il l'utilise comme ça? Quelles sont les origines? Moi, j'aurais adoré qu'on monte côte à côte des films de Wes Anderson. Je sais pas, moi, le Tombeur de ces dames de Jerry Lewis ou les films de Jacques Tati. Et on a ces indications dans les cartels. C'est-à-dire que les cartels sont peut-être le seul moment où les commissaires, et le commissaire en particulier, Mathieu Orléans, a pu s'immiscer disant des choses sur le cinéma d'Anderson, mais c'est jamais montré. C'est-à-dire qu'on nous dit quelque chose, vraiment, il faut aller chercher dans le cartel, mais l'exposition elle-même, et les grandes expositions sont les expositions qui vous rendent plus intelligent en sortant. Là, je suis pas sûr que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'on est ravis de voir tous ces très beaux objets, mais ils sont morts.
Raphaël, est-ce que vous diriez qu'en visitant l'exposition, on constate que Wes Anderson s'est constitué une famille de collaborateurs, comme une espèce de communauté esthétique? Et est-ce que c'est pas aussi ça, finalement, fabriquer un film?
Oui, absolument. C'est vraiment un collaborateur très fidèle. Mathieu Orléans, le commissaire de l'exposition, explique ça en partie par le fait qu'il est extrêmement timide. Donc, devoir reparler à de nouvelles personnes à chaque film, c'est un effort pour lui. Donc, savoir qu'il peut compter sur le même chef opérateur qui est Robert Yonan, ou sur Roman Coppola qui a été son scénariste très souvent, ou Alexandre Desplat à la musique, c'est vrai que pour lui, ça constitue une famille et qu'il n'a pas besoin de réexpliquer chaque fois ces obsessions qui sont des vrais motifs récurrents d'un film à l'autre. Donc c'est vrai que ces films apparaissent quand même dans l'exposition comme un espèce de grand univers qui trouve des différentes façons de s'exprimer. Et c'est frappant de voir que dès le début de son œuvre, en fait, il est déjà Wes Anderson. Le premier film, Bottle Rocket, est un peu différent dans la mise en scène, mais après, très vite, il devient cet homme orchestre. Donc à la fois, il est très fidèle à ses collaborateurs, très fidèle à la pellicule aussi, mais en même temps, c'est lui qui dirige tout et qui fait les storyboards, enfin qui est présent vraiment à tous les niveaux de la fabrication des films.
Antoine, dernier mot avant de conclure cette première partie du débat. Est-ce que vous, ça vous a quand même donné envie de revoir des films de Wes Anderson? Il y a une rétrospective qui est proposée en parallèle.
Oui, parce qu'au bout du compte, la mission de la Cinémathèque française, c'est d'exposer le cinéma en les projetant. Donc, il faut... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le cinéma de Wes Anderson, peu de moins en moins au fur et à mesure qu'il se fossilise. On verra ce qu'il va nous proposer au Festival de Cannes cette année, parce qu'il est assez fort probable que le prochain Wes Anderson y soit. Mais il y a un grand plaisir mélancolique à revoir le cinéma de Wes Anderson. Et La vie aquatique, notamment, est pour moi un film un peu fondateur.
Wes Anderson, l'exposition se visite à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 27 juillet et elle est accompagnée d'un catalogue.